Alors nous sommes arrivés au cinquième jour, je ne dis pas jeudi, hein, je dis le cinquième jour, cette structuration du temps qui est partout présente dans la Bible. Et dans la BST, là c'est encore une journée de marche, du moins une demi-journée. Ensuite on a tout besoin de se décrasser, on va vers la mer promise. Bon, c'est la... Alors, j'enchaîne directement avec ce parcours, on l'a terminé hier soir. Rappelez, ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent le repas de l'Alliance. Alors Moïse, sur le commandement de Dieu, monte sur la montagne, avec Josué, son serviteur, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Alors ici, vous avez une iconographie tout à fait, je vais vous demander où est-ce qu'on la retrouve dans le Nouveau Testament. Écoutez bien, la nuée couvrit la montagne, la gloire de Dieu s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu appela Moïse du milieu de la nuée. Vous voyez la structuration entre 6 et 7. Où est-ce qu'on trouve cette iconographie dans le Nouveau Testament? La nuée et la gloire de Dieu.
Là, moi, je pense spontanément à la transfiguration.
La transfiguration, c'est la plupart des gens pensent d'abord à ça.
Oui, à cause de la nuée et de la voix qui sort
et
de...
Et puis Moïse et Élie qui parlent de l'Exode à Jérusalem. Il n'y a pas un autre endroit que vous voyez? Il y a le baptême de Jésus.
Ah oui, bien sûr.
Et puis alors, il y a une chose encore plus évidente dont personne ne parle. Enfin, c'est l'Annonciation. Comment cela se fera-t-il? La puissance du Très-Haut, la dynamique subsiste, tout te courira de son ombre, et celui qui naîtra de toi sera appelé saint. C'est pas saint n'importe qui, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Sainte Vierge apparaît comme le temple qui n'est pas fait de main d'homme, à la plénitude des temps. Cette iconographie-là est très importante. Et c'est évident, lisez les ouvrages du Père Laurentin là-dessus. Hein. Et ça se prolonge aussi sur la visitation. On comprend beaucoup mieux quand on connaît l'histoire de l'Arche d'Alliance qu'on va étudier maintenant. Alors, ensuite, à partir du chapitre 25, vous vous rappelez ce jeu de mots-là, retenez-le bien, pas le buisson ardent, ce n'est Boer Ba'esh, le Sinaï, la montagne embrasée par le feu, où le peuple fait collectivement l'expérience de la rencontre. Et cette expérience de la rencontre va être transportée étape par étape vers le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, Jérusalem. Quelle est la dernière étape de cette aventure qui commence ici et qui se terminera à Jérusalem? Eh bien, c'est David qui, après avoir conquis Jérusalem, va chercher l'Arche d'Alliance qui était en panne à Kiriath Yearim, et puis qui l'amène en enthousiasme, il dansait, cette main qui perd son prestige là, et c'est la dernière étape d'une aventure qui commence ici. Et ce transfert de l'Arche à Jérusalem, c'est ce qui fait de Jérusalem le lieu au singulier que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Vous voyez, partout où on va dans ce pays, on rebondit sur Jérusalem. Quand on lit la Bible, dans ses rédactions qui montrent ça. Déjà Abraham, pas mal qui c'était croix de Salem, Salem c'est Jérusalem, le mont Moria c'est Jérusalem dans l'histoire d'Abraham, bien que ça ne soit dit explicitement. On arrive à Beersheba, on rebondit vers le mont Moria. Le cantique de la mer Rouge, si on l'avait lu ce matin, vous voyez, ça se termine par une évocation du temple, hein, pas de Jérusalem où Dieu règne sur le monde entier, partout. Alors qu'est-ce qui va, étape par étape, transporter cette expérience de la rencontre du Sinaï à Sion? Eh bien c'est le sanctuaire et l'arche. Et le peuple va étape par étape suivre le sanctuaire et l'arche. Fais-moi un sanctuaire que je puisse résider parmi eux. Hein? Non pas pour que je puisse m'enfermer dedans, on ne met pas Dieu en boîte, mais pour que je puisse faire résider mon nom parmi eux. Tu feras tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. On n'adore pas Dieu n'importe comment, et il révèle petit à petit son nom, et il révèle aussi comment l'adorer. C'est très important, en fait. Le principal, c'est l'arche d'alliance qui est faite avec ces acacias, comme on en voit partout, du bois d'acacia. Alors, dans l'arche, il faut qu'il y ait des anneaux aux quatre coins et des barres qui resteront dans les anneaux. Oui, parce que l'arche doit toujours être sur le point de prendre la route. Et c'est là que je te rencontrerai. Regarde et exécute selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. La créativité doit s'exercer dans la liturgie, mais attention, c'est pas parce qu'un texte n'est pas intéressant, ne vous semble pas intéressant, qu'il n'est pas intéressant en soi. Il faut essayer d'entrer dedans et puis savoir qu'on est héritier là, d'un langage qui s'enracine dans l'Antiquité et puis qui est souvent révélé et on n'adore pas Dieu n'importe comment. Ce qu'on appelle idolâtrie, avoda zara, c'est pas seulement adorer des idoles, c'est adorer Dieu d'une manière qu'il n'a pas demandé. C'est important de savoir ça. Combien parmi vous qui ont lu tout ça, la charpente, le rideau, l'autel des holocaustes, le parvis, l'huile pour le luminaire, le vêtement des prêtres, l'éphode, le pectoral, le signe de consécration, le manteau, la consécration d'Aaron et de ses fils, l'investiture des prêtres, le repas sacré, l'holocauste quotidien. C'est là que je te donnerai rendez-vous pour te parler. Je donnerai rendez-vous aux Israélites dans ce lieu et il sera consacré par ma gloire. Alors ça continue, l'autel des parfums, l'impôt de la capitation, le bassin, l'huile d'onction. C'est là que je te rencontrerai. Et alors à la fin, vous avez un petit, au chapitre 31, là je feuillette, on ne peut pas tout lire. J'ai désigné nommément Betsalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai comblé de l'Esprit de Dieu, en habileté, intelligence et savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter. C'est important de voir ces trois formes de la sagesse, habileté, intelligence, savoir. Bina, Chorma, Vedat. Bina, c'est le discernement, Bein, discerner, pas faire d'amalgame. Chorma, c'est pas se laisser mettre en boîte, comme Salomon par la reine, c'est la reine, c'est moi qui ai essayé de le mettre en boîte, Chorma. Et puis Da'at, alors c'est une connaissance, mais une connaissance expérimentale, pas une connaissance de voyeur qui reste à l'extérieur, mais une étreinte du rêve. Shouraki, chaque fois qu'il rencontre la date, il traduit par pénétrer, la pénétration, l'intelligence. Et alors, pour concevoir des projets, mais attention, pour les exécuter, heureux ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. L'intellectuel, dans la tradition juive, c'est à la frontière du pathologique. Vous savez qu'un père de famille est en état de faute grave s'il ne fait pas trois choses. D'abord, s'il ne construit pas une balustrade autour de la terrasse pour pas que les gosses tombent dans la rue. Deuxièmement, il faut qu'il leur apprenne à nager, pas qu'ils se noient. Et troisièmement, il faut qu'il leur donne un métier manuel pour pas qu'ils deviennent des intellectuels, ce qui est la pire des catastrophes. C'est important de noter ça au passage. Et c'est pas par hasard que le Verbe incarné était charpentier. Et il faudrait penser, lui et Saint-Joseph, comme ces ouvriers du temple qui conçoivent des projets pour les exécuter. Et pas des briques, hein. En or, en argent, en bronze, pour tailler les pierres enchâssées, pour tailler le bois, pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors on détaille tout ici, tout le mobilier du temple. Et alors à la fin, vous avez le repos sabbatique. Mais toujours cette même structuration en fonction du repos de Dieu. J'ai entendu des professeurs qui diraient, je ne sais pas pourquoi c'est à la fin, on aurait pu le mettre là. Moi je pense, monsieur Intel pense que ça serait mieux là, à tel endroit. Eh bien, tout simplement, on dit que si nobles que soient les plus nobles de tous les ouvrages, ceux qui président à la construction du temple, eh bien, le repos sabbatique est encore plus important. Vous voyez, vous garderez mes Shabbats, c'est un signe entre moi et vous pour vos générations. Alors ensuite, vous avez un intermède, et là je vais faire une petite exception à mes méthodes, je vais garder tout l'aspect négatif. Je saute par-dessus le veau d'or et je reste alors, on va y revenir, vous inquiétez pas, on va en parler. Mais restons sur l'aspect positif, et puis je passe au-dessus du veau d'or, je lis ici quelques textes extraordinaires sur... après l'histoire du veau d'or, Dieu ne veut plus résider au milieu du camp, et alors Moïse prend la tente et la plante pour lui hors du camp. Et il se retrouve tout seul, comme au temps du buisson ardent, pour parler avec Dieu hors du camp. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se postait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard. Et Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alors Moïse fait cette demande, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Le thème de Dieu qui passe, commence sur la trajectoire de Dieu qui passe. Et si on n'a pas ces textes-là dans la mémoire quand on lit l'Évangile, on ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on sera bientôt au bord du Jourdain, Jean-Baptiste montre Jésus qui passe. Et puis ils suivent, Jésus se retourne et dit « Que cherchez-vous ? Celui qui voit le Père. » Vous rappelez cette phrase étonnante. On ne comprend pas les merveilles du Nouveau Testament si on n'a pas été éduqué par ces textes de l'Ancien Testament. Quand Zachée grimpe dans son sycomore parce qu'il est petit de taille, qu'il a les fesses près du plancher, comme dit la chanson, pour voir Jésus qui passe, dans la banalité de ce récit, là, de ce fonctionnaire là, qui grimpe dans un arbre, vous avez ce thème du passage de Dieu. Alors il faut que l'émerveillement, le sens du sacré soit réveillé par l'Ancien Testament, sans ça le Nouveau Testament peut devenir extrêmement banal.
Jésus se retourne, tandis que quand Dieu se donne à voir à Moïse...
On n'a pas encore lu de récit, c'est ça, j'ai fait trop vite. Attends, lisons le récit. Je ferai passer devant toi toute ma beauté, dit Dieu, je prononcerai devant toi le nom de Dieu. je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu dit encore, voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main, et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut pas la voir. Alors je ne peux pas tout lire, hein, je suis obligé de sauter ici. Et alors il y a, quand Moïse parlait à Dieu, la peau de son visage rayonnait, et ça c'est l'origine des cornes qu'on trouve dans Moïse. Vous savez l'origine des cornes, le français il pense au chef de garde, il faut démythologiser tout un langage là. C'est simplement parce que son visage rayonnait, et en hébreu c'est le même mot pour dire rayon et corne. Et Saint Jérôme a traduit cornutus. C'est pour ça que dans tous les bazars, je crois que c'est depuis Michel-Ange, surtout, Moïse a une paire de cornes.
Une paire de cornes.
Ça veut dire simplement que son visage rayonnait. Enfin, il faut rétablir la vérité, là, parce que dans ça... Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. La peau de son visage rayonnait. On avait peur de l'approcher. Moïse appela les Israélites qui s'approchèrent. Et quand Moïse eut fini de parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsque Moïse entrait devant Dieu pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Et les Israélites voyaient le visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. On dit de Saint Dominique qu'il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Et dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens au chapitre 3, Saint Paul reprend cela pour ce qui est de la prédication chrétienne. Les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Et il dit que quand on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure, il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Or jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. C'est le Seigneur, c'est l'Esprit, et où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et nous tous qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. Et il y a une vertu dont on ne parle pas beaucoup dans les manuels de morale, et qui pourtant apparaît comme une vertu cardinale des serviteurs de la parole dans les Actes des Apôtres, c'est l'assurance. L'assurance. L'assurance envers Dieu qui est devenu notre Père, et puis l'assurance dans la proclamation de la bonne nouvelle. Alors, on revient sur l'érection du sanctuaire. Hein. On reviendra au Vaudor après. Alors, on commence par le Shabbat, et puis on fait la collection de tous les matériaux. Tous ceux que leur cœur y portait, vous voyez, tous ceux que leur cœur y portait, tous ceux que leur âme y incitait apportèrent la contribution de Dieu pour le travail de la tente du rendez-vous. Tous ceux que leur cœur y inclinait apportèrent des broches, des anneaux, des bagues, des colliers, toutes sortes d'objets d'or. Tous ceux qui se trouvaient avoir de la pourpre violette et écarlate, du cramoisi, du lin fin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintant rouge, de cuir l'apportèrent. Tous ceux qui offraient une contribution d'argent, de bronze apportèrent la contribution. Toutes les femmes que leur cœur y portait, en raison de leur habileté, filèrent le poil de chèvre. Les chefs apportèrent des pierres de cornaline, les pierres à enchâsser dans l'éphod et le pectoral, et tout, on est loin des briques. Les aromates, l'huile pour le luminaire. Tous les Israélites, hommes et femmes, que leur cœur incitait à contribuer à l'ensemble de l'ouvrage que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, avait ordonné d'exécuter, apportèrent une offrande au Seigneur. Alors ici, on parle encore des ouvriers du sanctuaire. Et puis alors, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quel est le curé qui est jamais, parlant du denier du culte, c'est comme on fait un sermon là-dessus, était obligé de dire un jour, arrêtez, il y en a trop. Et bien c'est ce qui se passe ici. Le zèle des gens est tellement extraordinaire. Tous ceux que leur cœur portait à s'appliquer à l'ouvrage pour le faire, reçurent de Moïse tout ce que les Israélites avaient apporté en contribution. Comme ils continuaient d'apporter chaque matin leurs offrandes, tous les hommes, chacun quittant le travail qu'il était en train de faire, dirent à Moïse, le peuple apporte plus qu'il n'en faut pour le travail que Dieu a ordonné de faire. Moïse donna un ordre et l'on fit passer dans le camp une proclamation que personne, homme ou femme, ne fasse plus quoi que ce soit pour la contribution au sanctuaire, et on empêcha le peuple de rien apporter. Ça, c'est pas banal. Alors, ensuite, quand on lit le chapitre 36, pas où vous trouvez d'un seul tenant, d'un seul tenant, d'un seul tenant. En hébreu, c'est Echad, Echad, Echad. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Et c'est le point, pas la création, aux origines, refléter l'harmonie de l'unité divine. Ici, La demeure est tellement bien faite qu'elle est d'un seul tenant et elle reflète l'unité de Dieu. La demeure fut ainsi d'un seul tenant. Il fut, etc., d'un seul tenant. Il faut lire en hébreu et puis souligner Echad. On a des crayons de stabilo, on peut être en couleur, c'est étonnant. Enfin. Et alors, dans le Nouveau Testament, Dieu nous révèle pas seulement qu'il est un, mais comment il est un dans le mystère trinitaire. Et quand Jésus dit qu'il soit un comme nous sommes un, c'est pas une vague comparaison, c'est le mystère même de la Trinité et de ses relations, enfin, qui viennent nous envelopper pour que nos relations humaines soient prises dans la charité même de Dieu. Qu'il soit un comme nous sommes un. Et alors nous sommes appelés, et c'est ce qu'on essaie de faire dans ces groupes-là, des groupes qui mettent spontanément au service des autres ce qu'ils ont de meilleur, qui essaient d'exorciser tout l'égoïsme qui nous habite en chacun de nous, pour être relation avec l'autre, pas comme dans le mystère de la Trinité, où chaque personne n'est que relation subsistante. C'est comme ça que les théologiens, marchant à pas de raison dans cet océan de lumière qui nous est présenté par la foi, ont fides querens intellectum, ont essayé de penser le mystère de la Trinité. Et alors on devrait, les communautés chrétiennes, réaliser, nous sommes tous des pierres vivantes, et nous sommes appelés à former un temple d'un seul tenant aussi, reflétant le comment de l'unité divine qui nous est révélée dans le Nouveau Testament. Et c'est saint Paul qui prend cette comparaison dans l'Épître aux Éphésiens. Et vous voyez comme c'est grave, toute atteinte à l'unité. Et commençons par le commencement, essayons de réparer toutes les atteintes à l'unité dans les communautés autour de nous, mais portons aussi comme une angoisse, pas toutes ces divisions entre les chrétiens. Et elles sont plus apparentes à Jérusalem que partout ailleurs maintenant. Je n'ai pas encore terminé ici. On peut encore un petit peu, je passe au-dessus de tout le matériel là, qu'on a énuméré déjà tout à l'heure. Et puis alors, le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, dit Dieu à Moïse. Tu y placeras l'arche du témoignage, tu voileras l'arche avec le rideau. Alors Moïse termina les travaux. Ici, le verbe hébreu, c'est vayichal. Ça rappelle un peu dans la Genèse, la fin de la création, vayichulou, hashamayim va'aretz. Ainsi, pour terminer les travaux, il y a une sorte de plénitude des temps. Et on pense à saint Paul lorsque va un pays du détend. Dieu envoya son fils né d'une femme, ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Et saint Luc a repensé tout cela dans l'iconographie traditionnelle de la demeure, de la nuée et puis de la présence divine. La nuée couvrit la tente du rendez-vous et la gloire de Dieu remplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous car la nuée demeurait sur elle et toute la gloire de Dieu emplissait la demeure. Et maintenant, un texte qui va nous inviter à prendre la route, nous aussi. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche. Jusqu'au jour où elle s'élevait, car le jour, la nuée de Dieu était sur la demeure, et la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes.